Nous lisons dans Jérémie 9, 22. Jérémie 9. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle, parole de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur dit, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut être dans la gloire, se glorifier, il doit se réjouir d'avoir de l'intelligence pour connaître Dieu. Comme c'est, ici c'est écrit d'avoir de l'intelligence et de me connaître, mais dans d'autres versions c'est d'avoir de l'intelligence pour me connaître. Avoir cette capacité de connaître Dieu, qu'il s'en réjouisse, c'est ça qui doit lui donner la joie. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur toute la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Parole de l'Éternel. Un des problèmes qui soit empêche les gens de venir à Dieu, soit de se confier à lui totalement, c'est la question de la valeur. L'homme cherche à avoir une certaine valeur. C'est-à-dire, il cherche à être estimé à un niveau donné. C'est un de ses grands problèmes. Maintenant, comment on estime les gens sur la terre ? On les estime en fonction de leur force, de leur puissance et de leur richesse, en fonction de leur sagesse, de leur intelligence. Il y en a qui sont très forts physiquement dans un sport ou dans bien de choses. Il y a d'autres qui sont très intelligents, très sages, et d'autres encore ont les moyens financiers. Et qui dit moyens financiers dit aussi la puissance du pouvoir. Parce qu'avec l'argent, on arrive à assujettir les gens. De la même manière aussi, avec la force, on finit par assujettir les gens. Ça peut être aussi une force militaire. Ça peut être aussi une force en tant que bande. Mais il s'agit de la force qui est liée au pouvoir, qui est liée à la puissance aussi. Et donc, c'est à partir de ces choses-là que l'homme est valorisé. Et l'homme est sans cesse en quête de ces choses-là qui vont faire qu'on puisse les considérer. La beauté, l'argent, la force, ça peut être aussi une force spirituelle. Que ce soit la magie, que ce soit une recherche de puissance qui vient même de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont heureux qu'on les reconnaisse comme des grands intercesseurs, comme des grands prédicateurs. Donc, c'est aussi une forme de force. Et l'homme est toujours en quête de quelque chose, d'une valeur qu'on pourrait lui attribuer. Et Dieu nous dit, ce ne sont pas ces choses-là qui font d'un homme puissant ou un homme grand. C'est plutôt celui qui a la sagesse, l'intelligence pour savoir que c'est moi qui suis Dieu. Celui-là est béni. Celui qui sait qu'en tant que Dieu, c'est moi qui accorde les bonnes choses. C'est moi qui aime les humains. C'est moi qui élève. C'est celui-là qui a compris les choses. C'est moi qui fais le droit et la justice. C'est celui-là qui a compris les choses. Et cette affaire de valeur est un obstacle pour la conversion de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent être converties, s'être données à Dieu. Mais un jour, ils se butent à ce problème-là de valeur. On se souvient de Naaman, le général syrien. C'est un homme qui était très estimé dans son pays d'origine. Un homme de pouvoir, un homme fort. Il avait la force, il avait le pouvoir et il avait l'armée. Donc, il avait les deux éléments qu'on a là, force et richesse. Il avait même aussi une certaine sagesse parce qu'il était écouté du roi. Mais cet homme avait un problème, c'est qu'il était lépreux. Et comme il était lépreux, il était dans une sorte de défaite. Et on lui a dit, monsieur le général, par sa servante, dans mon pays d'origine, en Israël, il y a un prophète qui pourrait te guérir. Et ce général a cru. C'est pourquoi il s'est déplacé avec un cortège conséquent de richesses pour aller voir le prophète Élisée, qui devait le guérir. Et il arrive devant la maison du prophète. Le prophète ne sort pas de sa maison. Il envoie son serviteur dire au général, « Général, si tu veux être guéri, va te laver dans l'eau du fleuve Jourdain 7 fois et tu seras guéri. » Le prophète n'a pas daigné sortir pour dire bonjour général, mes respects général. Il lui a dit, il n'est même pas sorti pour lui donner cette instruction-là. Il envoie son serviteur. Le général dit, mais tiens, pour qui se prend-il ce prophète-là? Pour qui me prend-il? Oui, la valeur revient. Je ne veux pas aller me laver. Chez nous, n'y a-t-il pas de fleuves qui sont excellents? Ce problème de valeur va tuer beaucoup de gens, va les empêcher d'aller au ciel. Et ce général a fait demi-tour. Il a dit à ses hommes, « On s'en va, quitte à rester lépreux, je préfère rentrer chez moi. Je refuse de faire ce que cet homme me demande de faire, parce qu'il ne m'a pas respecté. Il n'est pas sorti pour me voir, pour me dire mon général. Il m'envoie son serviteur. Je refuse. » Et quand ils ont fait une certaine distance, son serviteur dit, « Général, est-ce que je peux dire quelque chose, maître ?» Le général dit, « Oui, tu peux parler. » Il dit, « Mon général, mais qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? Cet homme, il t'aurait demandé des choses très grandes. Tu les aurais faites. Mais il t'a demandé juste d'aller te laver 7 fois. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à cela? On a fait toute cette distance pour venir le voir. Maintenant, il s'agit juste de se laver 7 fois. Qu'est-ce qu'il y a de difficile en cela? » Le général a retrouvé ses sens. Il a retrouvé la sagesse. Il a dit, mais c'est vrai, après tout, qu'est-ce qu'on m'a demandé de difficile? Juste me laver 7 fois. Retournons. Il est parti, il s'est lavé, il s'est baigné 7 fois. Il a plongé 7 fois dans le Jourdain et il en est ressorti guéri. Bien-aimé, imaginez qu'à cause de la valeur, à cause de l'orgueil, cet homme allait demeurer lépreux. Ah, vous vous imaginez le nombre de chrétiens qui demeurent dans leurs problèmes, dans leurs difficultés à cause de cette logique-là de vouloir être quelqu'un. Cette logique-là de vouloir de la valeur. Beaucoup sont emprisonnés. Et même dans leur prison, ils croient que Dieu est avec eux. Parce que l'orgueil t'empêche de voir que tu es orgueilleux. L'orgueil est le seul mal qui se cache. Un voleur sait qu'il est voleur. Un escroc sait qu'il est un escroc. Un impudique sait qu'il est impudique. Mais l'orgueilleux et le menteur démoniaque ne savent pas qu'ils le sont. Parce que le mythomane, il finit par croire ce qu'il dit, quoi. Et en quelque sorte, les mythomanes sont de vrais orgueilleux. C'est pourquoi ils en sont arrivés à devenir mythomanes. Ils finissent par croire que ce qu'ils disent, c'est vrai. L'orgueil, c'est le péché qui, le seul fait que tu ne le découvres pas. Tu ne le vois pas, parce que c'est ça justement l'orgueil. L'orgueil peut même amener quelqu'un à se croire l'homme le plus simple du monde, alors qu'il est le plus orgueilleux. C'est ça la contradiction avec l'orgueil. La volonté de chercher de la valeur amène les gens à cela. Et ils sont loin de Dieu. C'est pourquoi, je peux vous dire la vérité, beaucoup de conversions ne sont pas totales au milieu de nous. Parce que les gens sont toujours à la recherche de la valeur. Tant que tu es à la recherche d'une valeur quelconque, quand on dit à la recherche, ce n'est pas que les gens ont pris des torches en train de chercher la valeur dans en dessous des chaises ou des tables. Hein? Non. Il y a des moments où Dieu met des difficultés sur leur chemin pour qu'ils cèdent cette valeur. Ils refusent. Ils persévèrent. Ils insistent. Je veux de la valeur. Dieu nous aide. Il permet des moments où nous devons nous humilier. Bien-aimés, pensons à Jésus. Philippiens 2 nous le dit. Il n'a pas cherché la valeur. À un moment donné, il a été lâché. Lâché entre les mains des démons, les mains des humains. Il n'a pas voulu se défendre. Il s'est tué comme un agneau. Parce que c'était le moment de laisser le Père seul être glorifié. Et Dieu apporte la vraie conversion en ce moment-là. La vraie conversion, c'est lorsque on n'existe plus. Lorsqu'on reconnaît que Dieu seul est grand. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Un converti, c'est quelqu'un qui ne regarde qu'à Jésus. Il est rempli de Jésus. Le bon exemple de converti, vous savez le démoniaque de Gadara. Dans Luc au chapitre 8, cet homme avait plus de 5000 démons. Quand Jésus a chassé ces démons, il s'est retrouvé délivré et guéri. Comme la Bible, il est écrit dans la Bible, il s'est retrouvé dans son bon sens. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est resté à côté de Jésus-Christ. Un vrai converti va rester à côté de Jésus. Je me souviens, quand je me suis converti au Maroc, j'ai lu l'évangile de Jean. Tout l'évangile de Jean. Et quand j'ai fini de lire ça, j'ai eu l'impression que Jésus s'était formé en moi. Et quand t'ont parlé d'une chose ou d'une autre, moi, mon intérêt, c'était quel était l'intérêt de Jésus dedans. Au fait, les gens commençaient à penser que j'avais des troubles dans ma tête, puisque je ne pensais qu'à Jésus. Je ne vivais que pour lui. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté et il n'y avait que Jésus. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie de connaître Jésus. C'est lui la source de grâce, de bonté et d'amour. La vraie valeur, c'est que Jésus-Christ s'est penché sur nous pour nous sauver. C'est ça la valeur d'un homme. La valeur d'un homme ne vient pas de ses richesses. On a vu Kadhafi, non? Kadhafi, qui a humilié tous les présidents du monde entier, qui a fait sa tente à Paris, qui a humilié le président de notre pays. Il s'est retrouvé frappé, courant, devant des badauds, devant des voyous. En un an, tout cela s'est passé en un an. On a vu le Ceausescu. Les richesses ne résolvent pas le problème de la vie humaine. Pas loin de nous, Steve Jobs, l'inventeur de Mac, les ordinateurs Mac, iPhone, iPad, avec ses milliards, il n'a pas pu être guéri de son cancer, malgré les greffes. Il est mort de sa maladie. Il n'avait même pas 60 ans, je crois. Même pas 60 ans. Alors qu'il y a plein de paysans chinois qui vivent jusqu'à 95 ans, 100 ans, qui n'ont que du lait, du riz, de l'huile, des œufs à manger, et un peu de viande de cochon. Mais ils vivent 100 ans, 95 ans. Les richesses ne résolvent pas le problème de l'homme. Ce sont des citernes crevassées. Vous savez pourquoi nous devons nous attacher à Dieu? À cause de l'éternité. Dieu donne des choses qui durent à toujours. C'est ça la grande différence. Il y a un insecte qu'on appelle éphémère. Cet insecte vit 2 jours seulement, au maximum. Mais c'est un insecte qui vole comme une mouche. Le premier jour, vous pensez que cet insecte croit qu'il va mourir, il va mourir un jour après? Non, il vit, parce que quand vous le voyez le premier jour, il vit, il vole comme une mouche. Mais dans ses gènes, c'est programmé que le lendemain, il va mourir. Il ne dépasse pas 2 jours. Je pense que, en tant qu'humain, admettons qu'un insecte, cet insecte-là éphémère, admettons que c'était un homme riche qui vient vous narguer avec ses colliers de perles, ses bijoux, ses voitures. Si vous savez que c'est un éphémère, vous savez, mais oui, mais de toute façon, il va mourir demain. À quoi ça sert tout cela? Alors, imaginez 120 ans devant l'éternité. Nous ne pouvons pas dépasser 120 ans. L'éternité, à comparer à 120 ans, c'est encore rien quand nous, on se compare à l'insecte éphémère. 120 ans, c'est rien du tout. Ça passe très, très vite. Très, très vite. Beaucoup de riches sont morts et ils ne sont pas partis avec leur richesse dans le tombeau. Et on a vu d'autres tomber en faillite de leur vivant. On les a vus sur terre. Qu'est-ce que l'argent peut faire à un homme? Pas grand-chose. Certaines choses, mais pas grand-chose. Chercher la valeur par l'argent, par les biens matériels, c'est une erreur grave. Je comprendrais, bien-aimé, si c'était des enfants, des jeunes de 16 ans, 15 ans, 18 ans, qui tombaient dans cette erreur-là. Ce que je ne comprends pas, c'est des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui tombent dans cette erreur-là. Alors qu'avec notre âge, nous avons vu beaucoup de gens élevés, tomber, des gens qui étaient millionnaires, des gens qui étaient très riches. Il y en a qui ont pris, qui ont touché à la magie pour devenir riches. Nous avons vu leur fin. Il y en a même en mourant, après leur mort, tous leurs enfants meurent avec eux après. On a vu tout ça avec notre âge. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des entreprises florissantes tomber. Même les jeunes d'aujourd'hui, on a vu la crise économique faire tomber des sociétés comme Lehman Brothers. Des sociétés qui ont une durée de, qui avaient une durée de vie de 100 ans tomber. Nous avons vu ça de nos propres yeux. Comment nous pouvons encore nous confier dans les richesses de ce monde? C'est une erreur très très grave. La vie, c'est plus que tout cela. Est-ce qu'on doit se confier dans la force physique? Mais non! Est-ce qu'on doit se confier dans une puissance quelconque, des armes? Mais non! Le Seigneur a dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous avez entendu les caïds de Marseille, comment ils sont assassinés? Mais eux, ils avaient tué d'autres. Ils régnaient en maître. Mais ils se sont fait eux-mêmes aussi tuer. Personne ne peut régner sur la terre. Le mal finit toujours mal. Croire qu'on est fort, c'est une grave erreur. Parce que le temps, souvenez-vous, je vous ai dit que pourquoi nous devons choisir Dieu? À cause de l'éternité. Ça veut dire que tous les restes des choses, le temps va les rattraper. Donc la force, la puissance, le temps va te rattraper. Nous, on a vécu dans un pays dictatorial. On est né, le président, il était déjà en place. Et on avait l'impression que cet homme-là était éternel. On avait l'impression qu'il mourra au pouvoir, mais ça n'a pas été le cas. Il a été chassé du pouvoir. Et il est mort en exil, enterré par des sans-papiers au Maroc. Lui, un président. On a vu Kadhafi exposé dans une chambre froide et tous les badauds venant regarder son corps. La force, c'est rien. Le temps finit par achever cela. On a vu la force physique de Mohamed Ali, où est-ce que ça s'est terminé? Le temps finit par manger toutes ces choses-là. Pourquoi chercher la valeur dans cela? C'est une erreur grave. Regardez Jésus, la Bible nous dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer. Mais il attirait le Saint-Esprit, il attirait la présence de Dieu et il attirait aussi les gens spirituels. Voilà ce qu'il faut choisir. Jésus, il entre chez Zachée, il attire Zachée. Zachée dit, j'arrête de voler, j'arrête de mentir, je donne mes biens aux pauvres. Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Zachée, qui était très riche, avait compris ça, que les choses, les richesses ne lui avaient rien donné. Au contraire, les richesses l'avaient détruit. Vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui s'entretuent pour l'argent. Voilà ce que les richesses peuvent produire. Se confier dans quoi? Dans sa propre sagesse, c'est une erreur grave. Il n'y a pas d'homme intelligent, nous dit la Bible. L'intelligence vraie, c'est de fuir le mal et de s'attacher à Dieu. C'est ça la vraie intelligence. La sagesse, telle qu'on peut la connaître au jour du monde, a beaucoup de limites. Et elle est vide parce qu'elle ne connaît pas Dieu. La vraie sagesse, c'est de saisir Dieu, de saisir l'éternité. C'est la vérité, bien-aimé. Le temps rattrape tout. Et une des grandes erreurs qui sont commises aujourd'hui, c'est de la part des jeunes qui s'autorisent à être légers parce qu'ils sont jeunes. Ils ont leur force physique, leur agilité, leur apparence de bébé leur donne une fausse impression d'éternité comme cela. C'est faux. Je peux te dire, si tu es là, tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça passe très vite. Ça passe très, très, très vite. Je me souviens de mes 17 ans comme si c'était hier. Ça passe très, très, très vite. Nous sommes tous passés par là. Nous croyons à une sorte d'éternité. On croyait qu'on n'aurait jamais la barbe, on croyait qu'on n'aurait jamais la calvitie. Mais on a tout ça aujourd'hui. Et parfois très prononcé. Ça passe très très vite. C'est une erreur. Quand on était jeune, on se moquait de ceux qui priaient. On avait un collègue au lycée qui priait tellement, qui jeûnait. Et tout ce que nous, on avait trouvé, c'est de créer de fausses histoires sur lui. Comme quoi, en peignant ses cheveux, les cheveux sont en train de partir à cause des jeunes. Mais aujourd'hui, combien je regrette, combien je me rends compte que ce garçon-là avait trouvé le plus beau trésor avant nous. J'aurais bien aimé connaître Jésus à l'âge de 10 ans. Je le dis toujours. J'aurais bien voulu me convertir bien avant que l'âge auquel je me suis converti. Parce que j'aurais évité beaucoup de problèmes dans ma vie. Il y a des choses que nous avons fait dans le temps de péché qui nous ont détruits. Même quand Jésus reconstruit, la reconstruction, après, on souffre. Mais Dieu est merveilleux, il nous a pardonné. Autant se convertir quand on a encore la force. Comme ça, on va utiliser cette force pour Dieu. Il ne faut pas attendre que le temps passe. Et puis, quand on a 30 ans, 35 ans, on n'a plus le temps. On a des enfants, on a son travail. On n'a plus le temps qu'on l'aurait eu quand on était jeune ou quelqu'un d'autre cuisinait pour toi. Quelqu'un d'autre t'achetait les vêtements. Quelqu'un d'autre te payait les factures. Aujourd'hui, c'est le temps de dire, tiens, si je me convertis maintenant, je serai vraiment à 100% parce que je n'aurai pas à faire la cuisine. Je n'aurai pas à faire ceci, cela. Donc je vais me consacrer vraiment à Dieu. Ainsi, dans les temps difficiles plus tard, ce qui a été semé dans ma vie rejaillira pour me défendre. Ne nous trompons pas, jeunes, ça passe très très vite. Ça passe très, très vite. C'est le moment de saisir la vraie richesse. Tout passe. C'est pourquoi que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. C'est une fausse sagesse, la sagesse de ce monde. Est-ce que vous vous imaginez depuis combien de temps les politiciens existent? Mais il y a toujours les guerres, les crises économiques. Depuis combien de temps la politique existe? L'homme n'arrive pas par son intelligence à résoudre les problèmes du monde. Réveille-toi et comprends ça. Ne te confie pas à ton intelligence. Parce que si l'intelligence était forte, les problèmes de l'humanité seraient résolus. La politique existe depuis longtemps. Les philosophies, les théories pour résoudre les problèmes de l'humanité, ça existe depuis longtemps. Il y a des moments où il faut lire l'histoire. L'homme attend qu'il y ait une chose grave qui arrive pour prendre conscience. N'attends pas cela, frères et sœurs. Parce que les gens qui ne se donnent pas totalement à Dieu, qui ne se confie pas en lui totalement. Dieu non plus ne s'occupe pas des domaines qui ne lui ont pas confiés. Et quand les problèmes arrivent de graves, c'est là qu'on se réveille pour dire « J'aurais dû confier ce domaine à Dieu. » Dieu nous donne le temps aujourd'hui. Confie-toi à moi, toi et tout ton être et tout ce que tu es. C'est le temps, c'est aujourd'hui. N'attends pas qu'un problème grave arrive. Aujourd'hui, les Japonais veulent arrêter avec l'énergie nucléaire. Donc, il a fallu qu'il y ait une catastrophe nucléaire pour que tout le monde se réveille. Mais avant cette catastrophe, allez poser la question aux ingénieurs, aux savants. Ils allaient vous dire quoi? C'est maîtrisé. Nous avons telle sécurité, telle sécurité, telle sécurité. On va vous faire des calculs mathématiques et physiques. On dit, mais tout est maîtrisé. Et puis la catastrophe vient. C'est pour nous dire, nous n'avons pas à nous confier à l'intelligence humaine. Elle pense toujours avoir raison, mais elle se trompe totalement parce qu'un seul connaît tout, c'est Dieu. C'est la réalité. Combien de gens ne se confient-ils pas à leur richesse, mais ils sont malheureux dans leur famille? Des enfants qui se suicident. Des enfants qui n'obéissent pas aux parents. Des enfants qui ne veulent pas étudier. Ce n'est pas la richesse qui peut produire l'amour pour les études. C'est Dieu seul qui peut transformer les humains. C'est le moment de s'arrêter et de dire, Dieu, je me confie en toi maintenant. Il y en a qui se confient dans les humains. Ils se confient dans leur mari, ils se confient dans leur femme. Il y en a qui ont fait même des alliances de sang. Mais plus tard, ils ont divorcé encore. Bien-aimés, ce n'est pas ça qui rend les choses pérennes, qui fait que les choses durent. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité de faire durer les choses. Combien de mariages ne sont pas passés dans les magazines? On nous donne le prix de la robe, de la mariée, le nom de la du couturier. 5 ans, 10 ans après, c'est le divorce. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont unir les mariés. Mais c'est Dieu seul qui peut unir les mariés. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font parce que les gens cherchent de la valeur auprès des hommes. Dans Jean 9, il y a ces gens-là dont le fils était né aveugle et Jésus guérit leur fils. Mais ils ont eu honte de confesser Jésus. Et la Bible nous dit, c'est à cause de la gloire des hommes qu'ils ont eu honte. Parce qu'ils voulaient de la valeur auprès des humains. Ils ne voulaient pas qu'ils soient chassés de la synagogue. Ils veulent de la valeur. Et il y a beaucoup qui ont certains péchés qui terrassent leur vie. Au lieu de venir voir les serviteurs de Dieu, de venir voir des anciens, pour confesser, ils ont honte à cause de la valeur. La valeur va tuer beaucoup. Ne cherchons pas de la valeur auprès des humains. Ne cherchons pas de la valeur auprès de nous-mêmes. Un jour, tout sera dévoilé. Au Canada, un pédophile a été dévoilé comme ça à 53 ans. Il était en train de suivre les petits-enfants dans les sites des enfants. Il a même osé dire à cet enfant, écoute, mon fils revient de l'école, je dois aller à l'église, je te rappelle, je me connecte le lendemain. Et il y avait les Anonymous, des pirates internet qui combattent les pédophiles. Ils ont tout filmé. Il ose même dire, je vais à l'église. Les semaines qui ont suivi, ils ont envoyé tout auprès de l'Église et auprès de l'État. Il a été arrêté, 53 ans. Mais s'il avait eu le courage de venir voir le pasteur, voir les responsables, dire « j'ai un problème », il aurait perdu la face devant 2 ou 3 personnes, mais il serait sauvé. Vouloir toujours la valeur. Il a préféré continuer ses activités en cachette. Bien-aimés, ne faisons pas des choses parce qu'on a besoin de valeur, ça va nous tuer. C'est un conseil gratuit. La valeur, c'est le fait que Dieu s'est intéressé à nous. C'est ce qui nous donne de la valeur. Dieu a voulu que son fils Jésus meure pour nous. C'est ça qui te donne de la valeur. Ce n'est pas autre chose. Vous savez, même le fait de faire 20 ans en Christ, ce n'est pas de la valeur. Même le fait d'avoir été fidèle pendant 5 ans à Christ, ce n'est pas de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le fait que Jésus t'aime et qu'il a pris ta vie en charge. C'est ça qui a de la valeur. On se souvient de David, bien-aimé. David était poursuivi par qui ? Par Saül, le roi. Il voulait le tuer. Mais Dieu a permis que il arrive une circonstance dans laquelle Saül était en position de faiblesse. Il était sans son armée. Il était parti faire ses besoins dans une caverne. Et dans cette caverne-là, il y avait David et ses soldats. Les soldats de David ont dit à David, « David, mais c'est Dieu qui te livre, ton ennemi, c'est fini. Tu peux le, si tu le tues, tout le peuple se viendra avec toi et c'est fini, ton problème est réglé parce que là, nous sommes en fuite à cause de lui. Maintenant, il est tout seul, on le tue et c'est fini. » David a dit, « Ce n'est pas à moi de le tuer. Cet homme a été établi par Dieu. Moi, je ne veux pas le tuer, que Dieu s'occupe lui-même de lui. » Quelle bonté, quelle fidélité à Dieu, quel comportement exemplaire. Ça s'est répété encore une autre fois. Il pouvait le tuer, il ne l'a pas tué parce qu'il a dit « ce n'est pas mon problème, c'est entre lui et son Dieu ». Quand on voit un tel comportement de David, on dit quoi ? Ça c'est l'homme parfait. Quel comportement ! Mais plus tard, le même David a tué un homme pour prendre sa femme. C'est pour nous dire quoi ? Tu peux faire 10 ans d'exploits spirituels, ce n'est pas ça qui a de valeur, de la valeur. La valeur, c'est que Dieu soit ton amour. Dieu soit ton partage. C'est ça qui donne de la valeur à un homme. C'est d'être avec Dieu. C'est ça qui te donne de la valeur. Parce que Dieu, lui, ne péchera jamais. Dieu, lui, ne tombera jamais. Dieu, lui, sera toujours glorieux. Dieu, lui, ne sera jamais faible. Être toujours avec lui, c'est partager tout ce qu'il est. Alors que quand tu commences à dire, mais j'ai 10 ans d'expérience dans la fidélité, dans la sainteté, tu prends ça pour une valeur, tu te trompes. L'avenir te confondra. Il est écrit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Voilà ce qui est écrit. David, qui avait réussi à ne pas tuer par légitime défense, mais il est parti tuer gratuitement. Alors que même si tuer Saül, même nous aujourd'hui, on allait dire, on comprend, il s'est senti menacé, il s'est senti attaqué, il a répondu. Mais il n'a pas fait parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Mais il est parti faire quelque chose de plus grave, tuer gratuitement un homme qui ne lui a pas fait de mal. Voilà pour nous dire que celui qui se croit sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui se croit spirituel ne s'en glorifie pas. Alors, nous devons nous glorifier de quoi ? De connaître Dieu et de savoir qu'il nous aime et qu'il s'est penché vers nous. Qu'il est notre partage. Le chant que nous chantons, Jésus-Christ est ma sagesse. En anglais, c'est Jésus-Christ est mon partage éternel. C'est lui qui est ma vie, quoi. C'est lui qui est mon partage. Savoir que Jésus est mon Dieu, est mon sauveur, c'est ça qui nous doit nous donner la joie. Dieu s'est occupé de moi. Il s'est chargé de moi. Il m'a pris. Il m'a sauvé. C'est ça qui doit nous donner une grande joie et de la valeur. Même notre frère Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 10, 17. Il dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Qui se glorifie d'avoir Jésus, qui se glorifie que Jésus s'est penché vers lui, l'a sauvé et s'est occupé de lui. Bien-aimé, c'est ça qui est important. Et sur la terre, nous allons connaître des oppositions, des tribulations, des souffrances. Mais le jour où nous serons dans les noces de l'agneau, bien-aimé, il est écrit, Jésus dit que quand le maître va venir, lui-même, c'est le maître qui va mettre la ceinture et qui va servir l'esclave que nous sommes. Jésus-Christ, il va s'habiller et il va nous servir dans les noces de l'agneau. Il va essuyer nos larmes. Les défaites de la terre seront passées. Sur la terre, nous avons besoin d'être dans les défaites, parfois, afin que la gloire de Dieu seul soit manifestée, afin que Dieu seul soit élevé. Mais ce n'est pas une vraie défaite, c'est Dieu qui nous préserve de l'orgueil de notre chair. C'est Dieu qui nous préserve de nous croire fort, parce que quand il dit que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force, parce que les gens se croient fort, quand il dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sage. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas forte. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas riche. Mais Dieu veut dire que ces choses-là, richesse, sagesse, force humaine, sont très limitées dans le temps. C'est comparé à un insecte éphémère, à cette mouche-là éphémère. Elle peut voler, vous savez, les humains ont toujours cherché à voler. On peut être épaté par cette mouche éphémère qui vole. Mais elle ne volera que 2 jours. 2 jours. Mais Dieu, quand il te donne quelque chose, c'est éternel. Sur la terre, nous connaissons des difficultés, des tribulations. Nous ne devons pas chercher à forcer les choses par notre force, à forcer les choses par notre intelligence, à forcer les choses par nos richesses, en cherchant les richesses, en cherchant de la valeur pour équilibrer les difficultés. Non, nous devons nous contenter de Jésus. Jésus avait sorti une parole dure dans Jean 6 en disant qu'on devait le manger et beaucoup de disciples l'ont fui. Mais Jésus a demandé à Pierre, pourquoi toi, vous ne fuyez pas? Pierre dit, mais nous allons aller où? Il n'y a que toi qui nous donnes des paroles de la vie éternelle, des paroles qui nous rassurent, qui nous assurent de chose éternelle, c'est toi seul qui donne. Les autres, ils peuvent nous donner l'argent aujourd'hui, ça ne nous assure pas. La France était réputée pour être un pays où, dès que tu as un emploi, c'est fini, t'es assuré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça n'a même pas duré 15 ans, ce n'est plus le cas. Il n'y a rien de sûr. C'est des citernes crevassées qui font fuir l'eau. Dieu veut qu'on s'abonne à sa source. Lui, c'est la source. Nous préférons les bidons d'eau, les tonneaux. On préfère des réserves, des citernes. Même si ce n'était pas des citernes crevassées, même si tu as une citerne qui a la taille de ces bâtiments, tôt ou tard, cette eau finira. Tôt ou tard. Même si tu as une citerne qui a la taille de la tour Eiffel, tôt ou tard, l'eau qui est dans la citerne finira. Dieu dit, mais pourquoi vous confiez dans les citernes? Confiez-vous en l'Éternel, qui est la source. Notre frère Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, pour autant que nous ayons le manger et le boire, cela nous suffit. Ceux qui cherchent les richesses tombent dans des pièges. C'est ce que moi je nous dis aujourd'hui. Tu as le manger, tu as le boire, cela suffit. Dieu s'occupe du reste. Il est notre part éternelle. C'est la vérité. C'est ça le véritable converti. Le véritable converti ne s'inquiète pas du lendemain. Il prie. C'est quelqu'un qui prie. Quand il a un besoin, il prie. Et il sait que Dieu va résoudre. Il n'entre pas dans la quête de la richesse. Il n'entre pas dans la quête de la valeur. Il n'entre pas dans la quête de la force. Il sait que sa force, c'est Dieu. Amen. Qui est-ce qui a des tonneaux d'eau, qui garde de l'eau dans sa maison, dans des tonneaux ici, beaucoup de tonneaux pour ses besoins de tous les jours? Je crois qu'il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'en France, nous sommes sûrs qu'en ouvrant le robinet, l'eau sort. Pourquoi faire des réserves? Alors Dieu dit, mais pourquoi vous voulez faire des réserves personnelles alors que moi, la source, je suis à côté de vous? Pourquoi chercher une force personnelle? Parce que les réserves, c'est ta force. Quand tu regardes les réserves, tu te dis, ben, j'en ai pour longtemps, voilà, j'en ai pour 2 mois, j'en ai pour 3 mois. Les réserves, c'est ça. Quand tu regardes ton intelligence, tu te dis, ben, moi, je suis intelligent, je peux être accepté dans tel endroit. Ça devient ta force. Quand tu regardes ta beauté physique, tu te dis, ben oui, moi, j'attire. Voilà, mes bien-aimés, regarde les prostituées qui sont dans les rues, elles les attirent aussi. Ah oui? Mais elles ont fini comment? Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Revenons à Dieu, bien-aimés. Ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes. La plus belle nouvelle, la meilleure nouvelle que je nous annonce aujourd'hui, c'est que Dieu s'est souvenu de nous. Il nous a aimés et il s'est penché vers nous. Ça, c'est extraordinaire. Celui qui a fait le ciel et la terre, il s'est occupé de nous. Restons dans ses bras. Arrêtons de nous agiter. Venons à lui. Beaucoup se sont agités avant nous et ils sont morts. Beaucoup se sont agités avant nous. Maintenant, ils s'agitent dans la drogue. Ils s'agitent dans les prisons. Beaucoup se sont agités avant nous. Ils s'agitent dans les antidépresseurs aujourd'hui. Beaucoup se sont agités avant nous. Aujourd'hui, ils pleurent. N'entre pas dans les polémiques avec les gens. Demeure en Christ. Que Jésus-Christ soit ton partage éternel. Reste dans ses bras d'amour. C'est ce qu'il nous demande. Il est écrit dans le psaume 8. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quand je regarde les cieux, la lune, les étoiles, mais pourquoi Dieu s'est intéressé à moi? Mais on ne sait pas pourquoi, mais Dieu s'est intéressé à nous. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alors veux-tu continuer, toi, à chercher de la valeur sur la terre, à perdre ton temps? À perdre ton temps comme beaucoup l'ont fait. Où est Kadhafi aujourd'hui? J'ai oublié le nom des Marseillais qui viennent d'être tués. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont régné dans cette ville-là. Mais où sont-ils aujourd'hui? Morts. Tués comme des animaux. Pourquoi chercher la valeur auprès des humains? Chercher de la valeur sur la terre. Chercher de la reconnaissance. Chercher des félicitations. Non, bien-aimés, réjouissons-nous. C'est pourquoi notre frère Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 1er, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans Philippiens 4, il rappelle, toujours dans le même livre, Philippiens 4, 4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En quelque sorte, il veut dire, mais vous êtes heureux, vous sur qui le regard du Seigneur s'est penché, vous êtes heureux, réjouissez-vous. Pourquoi vous inquiétez? C'est dans le même livre, au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, réjouissez-vous. Lisons ça, bien-aimés, Philippiens. Réjouissez-vous, puisque vous avez Jésus, vous avez le Dieu vivant. Vous pouvez tout lui demander. Il s'occupe de vous. Il pardonne vos péchés. Il vous assure les choses éternelles. Réjouissez-vous, pourquoi chercher de la valeur pour être appelé grand prédicateur, grand pasteur. Pourquoi chercher de la valeur sur la terre? Réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné, beaucoup de valeur, en laissant que son Fils meure pour nous, les humains mauvais que nous étions. Philippiens, au chapitre 3, verset 1er, il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Philippiens 4, au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Tous les problèmes qui peuvent arriver autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, je te confie la chose. Mais pourquoi souffrir quand on a un tel Messie, un tel Seigneur? Pourquoi s'embêter? Pourquoi cacher ses problèmes? Pourquoi chercher de la valeur en cachant ses problèmes? Pourquoi chercher de la valeur dans les vêtements, dans les choses de la terre? Non, notre valeur, c'est d'être des élus, d'avoir été sauvés et d'être maintenant enfants de Dieu. C'est ça notre valeur. Que Jésus se soit penché sur nous pour nous prendre et faire de nous ses collaborateurs, faire de nous ses frères. C'est ça qui fait notre valeur. C'est ça qui doit faire ta valeur. Je bénis Dieu que je me sois converti au Maroc. Parce que là-bas, il n'y avait pas, à l'époque quand je m'étais converti, il n'y avait pas dans cette église le problème d'apôtres, de prophètes, de tels dons, de ceci, cela. Je me suis converti qu'à Jésus lui-même, quoi. Et je suis resté en lui. C'est Jésus qui est le centre. Et Jésus donnera le reste. Que ce soit les dons, que ce soit les appels, Jésus donnera le reste. Que ce soit les finances, il s'occupera. Parfois, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de certaines choses. Nous voulons forcer parce que nous ne voulons pas nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nous voulons forcer parce que notre vie ne dépend pas de la vie abondante que le Seigneur donne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de joie. Bien-aimés, aujourd'hui encore, je nous exhorte à tout abandonner entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est proche, comme nous venons de lire. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Il est proche. Il arrive bientôt. Pourquoi il va te prendre si toi tu ne te réjouis pas en lui? Si toi tu cherches de la valeur sur la terre, pourquoi il te prendrait? Mention particulière aux jeunes, c'est le moment de se convertir. N'attendez pas longtemps. Il y a des gens qui font l'erreur de leur vie avant 20 ans. Mais l'erreur a déjà commise. Et puis toute ta vie, tu vas commencer à jalouser les autres à cause de ton erreur. Attention, c'est le moment. Jésus est le seul qui donne des choses éternelles. Jésus est le seul qui a du goût. Nous terminons cette prédication avec Luc chapitre 7. Luc 7. Il est écrit ceci. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la, verset 36, dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme, pécheresse, qui était dans la ville, sur qui il était à table, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller
de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on l'en pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Cette femme était dans la joie, elle a beaucoup aimé parce qu'elle savait qu'elle avait de nombreux péchés qui vont être pardonnés par Jésus. Alors elle a versé tout le parfum, elle s'est livrée au Seigneur devant les gens, sans valeur. Vous savez, c'était une femme de mauvaise vie. Les gens la regardaient mal. Elle a dit, moi, c'est Jésus qui compte. Bien-aimé, si tu es de Jésus, quel que soit le regard, tu diras, moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Cette femme a dit, moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Oui, mais tu es de mauvaise vie. Oui, mais il va me pardonner. Elle a pris tout un vase d'albâtre renversé sur Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Tu es ma sagesse, Jésus. Tu es tout pour moi. Jésus dit, femme, le problème est réglé. Tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, reconnais que tu es mauvais. Reconnais que tu as des péchés parce que tu passes ton temps à critiquer les autres. Regarde en toi-même. Reconnais. Moi, je reconnais que ma chair est pourrie. Et c'est pourquoi je sers Jésus avec détermination, bien-aimé, avec amour, parce que je sais que sans lui, je suis perdu. Je sais que sans lui, j'hériterai de l'enfer. Et il m'a sauvé gratuitement, et il nous a sauvés gratuitement. Et il veut te sauver gratuitement. Quel merveilleux sauveur, bien-aimé. Cette femme était remplie d'amour pour le Seigneur. Jésus dit, puisqu'elle a été beaucoup pardonnée, c'est pourquoi elle aime beaucoup. Mais les gens qui se croient justes à leurs propres yeux, qui se croient pas moins bons que les autres, eh bien, c'est des gens qui disent, mais je ne suis pas moins bon que quelqu'un d'autre. Oui, mais ce n'est pas ça qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger et Dieu, lui, il est infiniment plus bon que toi. Regardons-nous, comparons-nous à Dieu et regardons notre détresse, notre méchanceté et demandons pardon. Choisissons celui qui sauve réellement et éternellement. Amen. Ne polémiquons pas. Ne nous querellons pas avec les gens. Humilions-nous. Disons, du moment que Jésus est avec moi, cela me suffit. Du moment que Jésus m'aime, cela me suffit. En retour, qu'est-ce que je fais? Je lui demande pardon et je me laisse entraîner par lui. Quelle nouvelle extraordinaire de savoir que le Fils de Dieu est disposé à s'occuper de toi et à s'occuper de moi. Bien-aimé, moi j'ai sauté sur cette nouvelle et j'ai dit oui. Amen. Alors toi aussi dis oui au Seigneur aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Ceux qui veulent dire oui au Seigneur aujourd'hui, pendant que nous chantons
un chant, ils vont passer devant et nous allons prier pour eux. Si tu veux dire oui au Seigneur aujourd'hui, c'est ton jour, il n'y a pas de honte à voir. Le Seigneur veut te sauver. Aujourd'hui, je te dis oui à 100%. Prends le contrôle de mon corps, mon âme, mon esprit. Prends le contrôle de toute ma vie, Jésus. Je veux réfléchir comme toi, penser comme toi et te laisser me porter dans tes bras d'amour. Main dans la main, marcher avec toi toute ma vie. Je renonce à moi-même et je décide de te suivre malgré les tribulations, malgré les oppositions. Merci Jésus de t'être penché sur moi pour me saisir et me sauver. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Que ta puissance, Seigneur, produise une renaissance pour qu'ils marchent pour toi et vivent pour toi. Qui ne cherchent pas de la valeur sur la terre, mais qui se contentent de la grande valeur d'être tes choix à toi. Merci Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur de nous aider à réaliser ces grandes choses. Que c'est toi qui donnes la valeur. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta fidélité qui est si grande envers nous Seigneur. Merci de nous envoyer ta parole, nous interpeller à t'abandonner nos vies afin que ta gloire se manifeste et que la multitude soit sauvée Seigneur. Car la gloire viendra, Seigneur, de l'abandon total à toi. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Au nom de Jésus, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre place.